Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Nous accueillons M. Francis Martin, qui vient nous rendre visite pour parler de sa dernière parution aux éditions Humaines Sciences, Sous la forêt, pour survivre, il faut des alliés. Bonsoir, M. Francis Martin.
Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes.
Quelle drôle d'idée d'écrire un livre sur les arbres et sur les champignons. Vous pouvez nous dire en deux mots comment vous en êtes arrivé là, à ce livre ?
C'est pas une drôle d'idée. C'est pas une drôle d'idée parce qu'en fait, les arbres et les forêts couvrent quasiment un tiers de notre planète Terre. On entend souvent dire la Terre est une planète bleue recouverte des océans, c'est vrai, mais c'est aussi une planète verte. Il y a 3000 milliards d'arbres sur cette planète. Et donc, les forêts, les arbres sont des objets d'activité scientifique. Les chercheurs cherchent à comprendre comment ces forêts fonctionnent, comment la biologie des arbres permet à ces forêts de fonctionner. Mais en même temps, les arbres sont des organismes qui ont de tout temps été admirés, considérés même par certains comme des dieux. Donc en fait, l'arbre est omniprésent dans la culture occidentale, dans les cultures asiatiques. Mais l'arbre est aussi un objet de science. Donc j'ai trouvé fascinant, passionnant de raconter la vie de ces arbres, comment les arbres sont perçus par les scientifiques aujourd'hui, mais aussi rappeler que les arbres sont omniprésents dans notre culture. Et puis, comme les arbres ne sont pas des organismes solitaires, que les arbres sont des arbres-mondes, ils hébergent sur leur écorce, sur leurs feuilles, sur leurs racines, des milliers d'organismes vivants. Alors, évidemment, on pense aux oiseaux, on pense aux insectes qu'on voit courir sur l'écorce des arbres ou sur les branches. Mais vous avez dû remarquer, il y a des lichens qui pendent aux branches des arbres. Et si vous aviez un microscope comme nous, vous verriez que des milliards d'organismes peuplent les arbres. Ce sont des arbres-mondes. Et parmi ces micro-organismes qui sont invisibles, mais que la science peut voir aujourd'hui, il y a les champignons. Donc en fait, ce livre, il a comme objet de vous raconter la vie des arbres et comment les arbres vivent, interagissent, dialoguent avec les autres organismes. On est aujourd'hui en 2019, les connaissances sur les arbres et sur les organismes qui peuplent les forêts ont considérablement augmenté. On a des connaissances incroyables si on compare au siècle dernier. Et j'ai trouvé que c'était le moment de raconter la vie du peuple des arbres, la vie du peuple des champignons. Et j'avoue que je suis arrivé à une phase dans ma carrière où j'ai, depuis 40 ans, parcouru le monde, parcouru les forêts sur notre planète, depuis l'Alaska jusqu'aux Vosges, des Vosges jusqu'à l'île de la Réunion. Donc j'ai eu l'occasion de voir des paysages magnifiques, des arbres magnifiques, des champignons extraordinaires. Et je me suis dit, c'est une histoire qu'il faut raconter.
Et justement, parce que votre passion pour les arbres ne date pas d'hier, est-ce que vous pourrez nous dire en quelques mots comment tout ça a commencé ?
Alors c'est toujours difficile hein, de se rappeler, mais je suis Lorrain. Et en Lorraine, on en parlait à l'instant, hein, on a la chance d'avoir des massifs montagneux, des massifs recouverts de forêts. Et dès mon plus jeune âge, je me rappelle très bien les promenades que nous faisions avec mes oncles et mon père dans les forêts lorraines, à l'est de Nancy. Il y a un magnifique, une série de lacs recouverts, entourés de magnifiques massifs forestiers. Et on passait nos week-ends et souvent nos vacances d'été à parcourir ces forêts, et à récolter des champignons. Alors, je ne sais pas comment vous l'appelez ici, nous on l'appelle la girole, la jaunotte. Voilà, la girole. Donc, je me rappelle rentrer en fin de journée avec des cabas, on appelle ça en Lorraine, c'est des sacs remplis de girole. Donc, effectivement, des gamins, quand j'étais gamin, on avait un contact avec la nature qui était très fort. Et après, il se trouve qu'au cours de mon parcours universitaire, j'ai rencontré un certain nombre de professeurs qui ont su me faire partager la passion des plantes. Dès mes premières années d'université, j'ai eu l'occasion d'interagir avec Pierre Gadal, qui à l'époque, dans les années 80, était probablement l'un des plus grands physiologistes des plantes en France, et qui m'a dès la première année à l'université, m'a accueilli dans son laboratoire pour comprendre comment les plantes fonctionnaient. Et voilà, petit à petit, parmi les plantes, au début, je travaillais sur le riz. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les forêts. Et puis très vite, on a rencontré un collègue du Centre de recherche forestière de Nancy, qui nous a posé un certain nombre de questions, qui nous a montré comment les connaissances à l'époque, dans les années 80, étaient extrêmement limitées sur le fonctionnement des arbres, sur leur biologie, et comment ces arbres interagissaient entre eux pour faire une forêt. Et voilà, il m'a demandé un jour, est-ce que tu as envie de travailler sur les arbres ? Et c'était le début d'une carrière à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui a été consacrée quasiment qu'aux arbres et à leurs alliés, les champignons.
Du coup, pour parler de champignons, j'aimerais bien que vous nous expliquiez le sous-titre « Pour survivre, il faut des alliés », parce qu'on parle de la forêt et des arbres, mais ce livre, c'est le livre d'un partenariat.
Alors, les champignons, j'ai l'habitude de les... J'ai appris à les subdiviser en trois grandes guildes, en trois grandes compagnies, en trois grands groupes. Et dans le livre, je dis qu'il y a les bons,
les brutes,
le bon, la brute et le truand. Je trouve que, j'espère que l'image est appropriée. Il y a donc des champignons qui interagissent avec les plantes et qui apportent un bénéfice à l'arbre. Ce sont des champignons qu'on appelle symbiotiques. Ils forment des symbioses qu'on appelle mutualistes, c'est-à-dire que le champignon interagit avec l'arbre, et de cette interaction durable, pérenne, les deux partenaires vont tirer un bénéfice. Donc ces champignons symbiotiques, vous les connaissez, ce sont les bolets, les cèpes, ce sont les amanites, ce sont les chanterelles, comme on s'en est il y a quelques instants, ce sont les truffes. Donc ces champignons, le réseau souterrain produit par ces champignons qui irriguent la totalité des sols forestiers, ce réseau mycélien, cette toile, cet internet qui parcourt le sol sur des dizaines de kilomètres, interagit avec les petites racines des arbres et forme une interaction, une symbiose à bénéfice mutuel. Donc ça, ce sont les champignons bénéfiques pour les plantes, pour les arbres. Et puis, il y a ce que j'appelle les brutes, ce sont les décomposeurs, les dégradeurs, les fossoyeurs de la forêt. Ce sont des champignons qui ont une capacité extraordinaire. Ils sont capables de manger le bois, de découper le bois. Je vous rappelle que le bois, il est formé de deux biopolymères extrêmement importants. La lignine, c'est un composé qu'on appelle polyphénolique, extrêmement résistant. C'est l'un des composés les plus résistants sur notre planète. Cette lignine, qui forme 50% du bois, et cette lignine a été inventée par les plantes pour protéger les fibres de cellulose, qui sont en fait des fibres de sucre. Et cette lignine forme le bois et forme la structure des plantes et des arbres en particulier. Mais quand ces arbres meurent et que le bois tombe sur le sol, que les branches tombent sur le sol, que les feuilles à l'automne tombent sur le sol, eh bien ce sont ces champignons, ces brutes, ces champignons décomposeurs qui digèrent, découpent avec des ciseaux moléculaires, des nanomachines, sont capables de découper les fibres de lignine, les fibres de cellulose, pour en extraire les sucres, le combustible essentiel à leur fonctionnement. Et par contre-coup, ils alimentent tout le cycle des nutriments dans les milieux forestiers. Et puis, il y a le troisième groupe de champignons que nous autres forestiers n'aiment pas beaucoup. Ce sont les prédateurs, les parasites, les truands. Eux, ils s'installent sur l'arbre, mais ils ne cherchent pas à dialoguer avec la plante. Ils n'essayent pas de changer, de faire du troc avec la plante. Pas de commerce équitable pour cela. Ils tuent, ils injectent des toxines dans les tissus de la plante. Ils tuent cette plante ou l'affaiblissent. Et puis, ils la dévorent sur pied. Donc ce sont les trois grands groupes de champignons. Alors parfois, c'est, bien sûr, nous autres scientifiques, on aime bien mettre tous les organismes dans des tiroirs, dans des catégories. Donc on a les champignons symbiotiques, les champignons bénéfiques, les champignons décomposeurs et dégradeurs, Et puis on a les champignons parasites et prédateurs. En réalité, c'est un continuum. On peut parfois trouver des champignons symbiotiques qui sont excessivement gourmands et qui vont devenir parasites. Et puis parfois, il y a des champignons décomposeurs qui ont appris quand même à parler. Certains champignons ont appris à parler avec la racine des arbres et de ce fait deviennent des champignons symbiotiques.
Et du coup, on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, il y a le monde des arbres et juste en dessous, il y a un autre monde. Enfin, c'est comme un recto verso.
C'est ça.
Et quand est-ce que... Parce qu'on n'a pas connu ce monde-là depuis toujours. Quand est-ce qu'on a commencé dans l'histoire? Quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à ces interactions symbiotiques? Quand est-ce qu'on a perçu qu'il y avait quelque chose?
Alors vous avez raison de souligner qu'en fait, la biomasse, c'est-à-dire la matière vivante d'un arbre, c'est quasiment 50% la partie aérienne. Mais il faut que vous imaginiez, quand vous promenez dans une forêt ou dans un parc, même un parc bordelais, qu'il y a une masse quasiment équivalente sous terre. Il faut vraiment que vous projetiez intellectuellement. Il faut que vous imaginiez toutes ces branches, ces brindilles qui constituent la canopée, le houppier de l'arbre, la partie aérienne et ses feuilles. Il faut que vous imaginiez que la même chose existe sous terre, sans feuilles bien entendu, mais avec un réseau de racines, grosses racines qui vont ancrer l'arbre sur son substrat. Ces grosses racines peuvent pénétrer à 10, 20, 30 mètres de profondeur parfois. Leur rôle essentiel, c'est l'ancrage et de pomper l'eau. Mais sur les 30 à 50 premiers centimètres du sol, il y a des milliards, pour chacun des arbres, il y a des milliards de petites racines qu'on appelle des radicelles, qui ont une fonction essentielle pour l'arbre. Ce sont ces petites racines qui absorbent les éléments minéraux. Un arbre, il ne peut pas survivre s'il n'a pas à sa disposition des quantités importantes d'azote, de phosphate, de potassium, de micro-éléments, ce que vous apportez souvent sous forme de solutions concentrées sur les plantes d'appartement. Eh bien, l'arbre, il pompe en permanence des tonnes et des tonnes de ces éléments nutritifs. Mais très rapidement, ces racines, à force de pomper, elles créent autour de leur périphérie des zones de carence. Il n'y a plus d'éléments minéraux à proximité millimètres des petites racines. Elles ont vite fait d'épuiser les éléments minéraux du sol. Et heureusement, il y a les champignons bénéfiques, les champignons symbiotiques, qui sont capables de s'ancrer sur ces petites radicelles, de pénétrer dans ces radicelles pour établir cette interface symbiotique qu'on appelle mycorhize, myco-champignon-rhize-racine. Donc la mycorhize, c'est cette symbiose, la symbiose mycorhizienne, c'est cette chimère, cet organe chimérique qui se crée entre la racine des arbres, la racine des plantes et les champignons bénéfiques. Et à partir de cette tête de pont, à partir de cette interface où deux organismes complexes, l'arbre, la racine de l'arbre et le champignon dialoguent, sont en interface, à partir de ce système, va se développer dans le sol plusieurs dizaines de centimètres, plusieurs mètres de filaments microscopiques. Il faut imaginer un duvet blanchâtre, des fils, des petits pipelines de quelques centaines de microns, 0,1 mm de diamètre au maximum, qui vont irriguer le sol. Et on a mesuré, pour 1 km de racine, pour 1 km de radicelle, on a 1000 km de... Alors disons, pour 1 mètre de racine, on a 1000 mètres de réseaux de champignons, qu'on appelle des réseaux mycéliens, qui vont irriguer le sol, prospecter les moindres interstices du sol. Ils sont microscopiques, donc ils peuvent rentrer dans les anfractuosités du sol pour aller pomper les éléments nutritifs. Alors moi, je les appelle des mineurs. D'abord, ils sont prospecteurs, ils parcourent le sol à la recherche perpétuelle d'éléments minéraux. Quand ils trouvent ces éléments minéraux, azote, phosphore et autres éléments indispensables à la vie du champignon et de la plante, eh bien, ces éléments sont absorbés, transportés le long de ces réseaux jusqu'à la racine et déversés dans les racines de la plante. Et donc c'est un travail considérable, hein, prospecter le sol, absorber les éléments nutritifs, souvent même les digérer, les assimiler, les transporter et les échanger avec la plante. Et ce travail de prospecteur et de mineur et de commerçant, il est rétribué par la plante sous forme de sucre simple. Vous vous rappelez que les arbres sont des plantes et que les plantes ont une capacité phénoménale. ils sont capables de transformer l'énergie solaire et le gaz carbonique de l'air en sucre par la réaction qu'on appelle la réaction de photosynthèse. Seules les plantes sont capables de faire ça. Et ce sont les plantes qui ont changé, grâce à ce mécanisme, la face du monde. Parce que sans les plantes, on n'aurait ni matière organique, pas de bois, pas de sucre fabriqué, et on n'aurait pas d'oxygène. Parce qu'au cours de ce processus de photosynthèse, quand les petites machines, les nanomachines qui sont dans les feuilles, qu'on appelle les chloroplastes, sont des petites centrales solaires qui captent l'énergie du soleil, et grâce à cette énergie solaire, associent le gaz carbonique, le carbone de ce gaz carbonique, pour en fabriquer des sucres. Et donc la plante, elle a cette capacité à transformer l'air en matière énergétique, en combustible. Et une partie du combustible que la plante génère va être transférée au champignon qui a si bien travaillé. Donc on a j'aime bien l'image du troc.
C'est un système de troc, équitable. Oui, c'est ça.
Hein, la plante bénéficie de cette symbiose avec les champignons, de cette alliance souterraine pour absorber et se nourrir d'éléments nutritifs. Et en échange de ces éléments nutritifs, la plante fournit quasiment 25 à 30% de ses sucres fabriqués dans les feuilles, vont migrer vers les racines, vont être transportés vers les racines et confiés, donnés aux champignons, à ce réseau mycélien. Et le champignon va les utiliser, ces sucres, comme tous les êtres vivants, nous y compris, comme combustible pour vivre, respirer, bouger, construire ces tubulures souterraines. Et c'est comme ça que l'alliance entre les plantes et les champignons s'est établie, on pense, probablement il y a 400 millions d'années.
Quand même.
Donc c'est une histoire qui remonte à bien longtemps. Et les forêts sont apparues sur notre planète il y a probablement 180, 200, 250 millions d'années. On n'a pas de machine à remonter le temps, nous autres chercheurs. Donc on a un peu de mal. Les connaissances reposent à la fois sur les fossiles de plantes qui sont assez, assez fréquents. Les fossiles de champignons sont très rares. Donc il faut essayer d'extrapoler à partir de données moléculaires. On essaye de reconstruire le passé comme ça. Donc les forêts... les arbres de ces forêts interagissent avec les champignons depuis 200-250 millions d'années. Donc c'est une alliance séculaire.
Je vais revenir sur l'expression alliance souterraine, parce que vous expliquez dans votre livre que ce que nous voyons, ce que nous percevons du champignon, n'est rien par rapport à ce que champignon est dans toute sa... dans son entièreté. Le champignon, le chapeau que nous voyons,
oui.
Vous allez m'aider,
oui.
Ce n'est que le sexe du champignon. Tout le reste est enfoui.
C'est ça. Alors, il faut bien voir que d'abord, les champignons, donc c'est un des royaumes de la vie. Hein, on distingue parmi les organismes supérieurs, il y a les animaux, il y a les plantes. Les champignons ne sont pas des plantes. Même si on enseigne la cryptogamie, la science des champignons, en faculté de pharmacie, dans les cours de botanique, depuis très longtemps. Non, les champignons sont plus proches des animaux que des plantes. Et depuis une quarantaine d'années, on a considéré que les critères, les caractéristiques qui les différenciaient des plantes et des animaux étaient suffisants pour ériger un royaume, un règne, qu'on appelle le règne des mycotas, le règne des mycètes, ou champignons en français. Et donc ces champignons, il y en a probablement 5 millions d'espèces sur notre planète. C'est un des règnes de la vie les plus riches, beaucoup plus riches. Il y a beaucoup plus d'espèces de champignons que d'insectes ou que d'animaux. Et parmi ces 5 millions de champignons, on en a identifié, nous autres scientifiques qui travaillons sur les champignons, donc les mycologues, des gens qui travaillent sur les mycètes, on en a identifié à peine 100 à 150 000. Donc il va falloir encore beaucoup de générations de chercheurs pour mettre un nom sur tous ces champignons. Et parmi ces 150 000 champignons inventoriés, répertoriés, il y en a à peu près 20 000 qui forment un pied et un chapeau. Donc c'est en fait une petite partie des champignons qu'on est habitué à rencontrer en forêt, que ce soit le mycologue ou que ce soit le ramasseur de champignons. Donc, effectivement, cette structure visible qui rend les champignons visibles, parce que sinon, ce sont des êtres microscopiques. Hein, la cellule, le tube, on l'appelle le filament mycélien. On l'appelle également l'IF. Il fait 10 à 100 microns de diamètre. Donc, à l'œil nu, on a bien du mal à les voir. Heureusement, ils s'agrègent parfois pour former des masses blanchâtres sur un pot de confiture, sur un fruit pourri, etc. Et, ou dans le sol, quand vous écartez les feuilles mortes, très facilement, vous verrez à l'automne prochain, si vous le faites, entre les feuilles mortes, vous verrez des filaments, un feutrage blanchâtre, jaunâtre, grisâtre. C'est ça le filament, le champignon en réalité. Ça représente... Ce réseau de filaments microscopiques, il peut représenter jusqu'à 90% de la biomasse, de la masse de ce qu'on appelle un champignon. Et il peut couvrir des dizaines de mètres carrés. On en connaît certains qui couvrent des hectares. On en connaît certains qui couvrent des kilomètres carrés, des individus champignons sous forme souterraine qui peuvent occuper la totalité d'une forêt. Et c'est à l'automne seulement, quand il y a un certain nombre de critères qui sont réunis, humidité, température, que ce réseau souterrain invisible, qui grouille sous le sol, qui forme ce réseau, cette toile invisible, eh bien, il y a des petits filaments qui, sous l'effet de ces facteurs extérieurs, mais aussi des facteurs génétiques, s'agrègent pour former un petit embryon. Et très rapidement, cet embryon se gorge d'eau pour former un pied. Et au sommet de ce pied, pour beaucoup de ces champignons, un chapeau, un parasol. Et en fait, c'est le seul objet de cette structure que j'aime bien assimiler à un parasol, à un parapluie. Sa seule fonction, c'est de protéger de la pluie les spores, les gamètes, l'équivalent des grains de pollen, des fleurs. Les champignons produisent des petites billes microscopiques qui sont sur les lamelles, qui sont sous le chapeau. Et ce sont ces spores qui transportent le patrimoine génétique du champignon, de l'espèce. Et quand la bise se lève sur la forêt, eh bien ces spores vont se détacher des lamelles qui sont sous le chapeau pour se disperser dans la forêt. Et en se dispersant, comme les grains de pollen dispersent le patrimoine génétique et assurent la survie des espèces de plantes, eh bien ces spores vont se disséminer dans la forêt et perpétuer le champignon ou les champignons. Donc effectivement, ces chapeaux, c'est une structure, un organe sexuel. Donc quand vous promenez en forêt, à l'automne, ben vous marchez entre des sexes, en érection dans la forêt. D'ailleurs, je raconte ça dans le livre, hein, on a des traces de ça. À l'époque victorienne, il était interdit aux jeunes femmes nobles anglaises d'aller se promener dans les parcs parce qu'elles auraient pu voir des choses qui n'étaient pas autorisées. Parce que, est-ce qu'il y a des mycologues ici? Est-ce qu'il y a des ramasseurs de champignons? Est-ce que vous avez déjà rencontré en forêt un champignon qu'on appelle le satyre puant? Oui? Pas que dans les bois, on le trouve dans les parcs. Et franchement, est-ce qu'il a pas... Il ressemble vraiment à un pénis? Eh bien, au sommet de cette érection fongique, il y a une masse noirâtre qui correspond aux spores qui assureront la perpétuation de l'espèce. Et ce champignon a inventé un moyen extraordinaire de disséminer ces spores. Il ne compte pas uniquement sur le vent. Ces spores, cet agrégat, cette masse de spores qui se trouve sur le satyre puant, pue, mais alors, comme un vieux morceau de viande pourri, et donc les mouches sont attirées par cette odeur de viande pourrie, viennent se déposer, viennent savourer cette masse gluante et emportent sur leurs pattes des spores du champignon qui vont être dispersés à quelques dizaines de mètres, mais parfois plusieurs kilomètres de distance. Donc oui, le chapeau d'un champignon, sa fonction essentielle, c'est de produire, de construire, de fabriquer ces spores. Et il a une forme et une structure qui, au cours de l'évolution, pour chacune des espèces, favorise la dissémination de ces spores. Alors ça va être parfois des odeurs puantes ou agréables, le cas de la truffe, qui est un champignon dit hypogée. La truffe est un champignon qui vit sous terre. pour se protéger de la sécheresse en particulier et des agressions. Il est sous terre. Comment faire pour disperser ses spores quand on est sous terre? Qu'est-ce qu'il a inventé, le champignon truffe, pour attirer les animaux? Ben, le parfum, si apprécié des gastronomes, le parfum des truffes. En fait, le parfum de ces truffes est un complexe de molécules dont certaines imitent, miment les hormones sexuelles des cochons sauvages. Donc quand un sanglier se promène dans une forêt ou dans une truffière, aussitôt qu'il renifle le parfum de la truffe, eh ben, avec son groin, il va la déterrer, il va la manger. Et au cours du transit intestinal, ben, les spores sont libérées et dans les fesses de ce sanglier, les spores vont être dispersées et vont germer pour donner des truffes à quelques dizaines de mètres ou à quelques kilomètres plus loin. Donc les champignons ont inventé une multitude de moyens pour disperser leurs spores. Et ils produisent ces spores des milliards tous les jours. Des milliards tous les jours. Un cep, un coprin, va produire 30 milliards de spores par jour. Donc un cep dans la forêt landaise, s'il n'est pas ramassé par l'un d'entre vous, il va survivre une quinzaine de jours. Hein, le magnifique bolet, le cep de Bordeaux. Pendant 15 jours, tous les jours, il va produire plusieurs milliards de spores. Alors vous pourriez me poser la question, pourquoi un organisme s'acharne à produire autant de spores? Parce que chaque spore, c'est un petit paquet d'énergie. Dedans, il y a les gamètes, hein, qui assurent le patrimoine génétique dans le noyau de ces spores, de ces cellules qui forment la spore. Il y a évidemment le patrimoine génétique. Mais pour assurer la survie de la spore quand elle va tomber sur le sol, cette petite spore a été bourrée de lipides, de sucre, d'énergie. Donc ça a un coût considérable, la fabrication d'une spore. Alors, de 30 millions de spores. Eh bien, parce qu'en fait, quand les spores sont disséminées dans l'atmosphère, très peu de spores vont tomber sur un sol ou un substrat qui va convenir à la germination. Il y en a plein qui finissent dans vos poumons. Vous respirez chaque seconde, là, vous respirez plusieurs spores de différents types de champignons. Peut-être moins dans cette salle, là, souterraine, mais aussitôt qu'on va sortir dans la rue, même au cœur de Bordeaux, vous respirez plusieurs spores toutes les secondes. Quand elles finissent au fond de vos poumons, il y a peu de chances qu'elles génèrent un cep. Y en a d'autres qui vont tomber dans des rivières, dans des flaques d'eau, sur le capot d'une voiture. Donc en fait, sur les 30 milliards de spores qui vont être produites par ce cep, il y en a une quantité infime qui va tomber sur un sol forestier, germer, parce que l'humidité est appropriée. Celles qui germent, beaucoup vont être dévorées par les petites araignées, les collemboles, les nématodes qui peuplent la litière des forêts. Donc cette malheureuse spore qui germe, il faut que le tube, qu'on appelle le tube germinatif, qui sort de la spore, il a quelques heures pour atteindre la racine, s'y agripper et former la symbiose. Donc c'est un combat permanent.
Vous parliez tout à l'heure de la truffe. J'aimerais bien que vous nous parliez de son partenariat avec les chênes. Parce que, en fait, dans le livre, vous allez voir, quand vous allez le lire, on passe en revue plusieurs arbres, plusieurs champignons. À chaque fois, c'est son histoire. À chaque fois, vous lisez une histoire différente. Et à chaque fois, on retourne sur ce partenariat entre le champignon, la plante ou l'arbre. Et la Trouffeneur du Périgord, par exemple, c'est pas anodin si je m'arrête là-dessus. Parce que si j'ai bien compris, pas du tout. Mais par contre, j'ai vu que le début des travaux a eu lieu dans les années 2000 à l'INERA de Bordeaux-Sestas.
Oui.
Donc du coup, comme on est à Bordeaux, je ne pouvais pas ne pas m'arrêter sur ce sujet.
Vous avez la chance à Bordeaux d'avoir l'un des plus grands centres de recherche forestier en Europe, hein, le centre de Perrotton, ou plus plusieurs centaines de scientifiques et de techniciens travaillent sur, essentiellement sur la forêt landaise, mais également sur d'autres espèces que les pins, comme les chênes. Et en particulier, Antoine Crémer et Rémi Petit, il y a une vingtaine d'années, ont commencé à reconstruire l'histoire des chênes, du chêne en Europe. Et ils ont montré que... Je trouve que c'est une histoire qui est vraiment extraordinaire. Vous vous rappelez, il y a 11 000 ans, il y a 12 000 ans, l'Europe était recouverte d'un immense glacier. Un immense glacier qui partait de l'Arctique, qui couvrait la Scandinavie, et qui, les bordures de ce glacier correspondent à peu près ce qu'on appelle aujourd'hui le nord de l'Allemagne ou les Pays-Bas. Et ici, ce qu'on appelle aujourd'hui la France, à l'époque, c'était l'équivalent de la Sibérie, c'est-à-dire une toundra. Très peu d'arbres. Les arbres avaient été repoussés par ces... Donc le climat était extrêmement rigoureux. Le climat équivalent à la Laponie aujourd'hui. Donc les arbres avaient fui, avaient disparu. Les forêts avaient disparu. Et les forêts s'étaient réfugiées. À cette époque, il y a 10, 12, 13 000 ans, les forêts étaient réfugiées dans la péninsule ibérique, ce qu'on appelle l'Espagne aujourd'hui, et le Portugal, et le sud de l'Italie. C'est les seuls endroits en Europe à l'époque qui correspondent à... qui avaient des forêts, des zones tempérées. Donc les forêts s'étaient réfugiées pendant les glaciations, la dernière glaciation que l'Europe a connue. Les forêts étaient en particulier les chênes, les hêtraies. La plupart des plantes, en fait, qu'on connaît aujourd'hui dans nos forêts, étaient réfugiées dans le sud de l'Europe. Et il y a à peu près 7000 ans, ce glacier a commencé à se retirer. Et donc, au fur et à mesure qu'il se retirait, le climat s'est réchauffé. La steppe, la toundra s'est transformée en taïga avec quelques conifères comme qu'on appelle aujourd'hui les épicéas. Et petit à petit, les chênes et les hêtres qui étaient réfugiés dans le sud de l'Italie et de l'Espagne ont remonté pour atteindre le territoire qu'on appelle aujourd'hui la France, pour recoloniser la totalité de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe occidentale. Et la progression était d'à peu près 500 mètres à un kilomètre tous les ans. Donc les forêts, les arbres bougent, on croit qu'ils sont immobiles. En réalité, les forêts bougent. Les glands étaient transportés par les pies, par les corbeaux, par les animaux, hop, un petit peu plus loin dans la taïga et dans la toundra, et petit à petit, étape par étape, en 2000 ans, les chênes ont repeuplé l'Europe et en particulier la France, en remontant le long de la vallée du Rhône et en remontant par le seuil du Poitou jusqu'à la Bretagne. Et ils ont franchi à l'époque, il n'y avait pas de Manche, donc ils ont franchi le Channel pour rejoindre l'Angleterre. Donc on a des études extrêmement solides basées sur des analyses à la fois moléculaires, génétiques, mais également sur les pollens. On peut retracer l'histoire de notre continent en étudiant les pollens qui sont conservés dans les tourbières, dans les sols. Donc ce chêne, ces chênes, ces arbres des forêts tempérées ont remonté et recolonisé le continent européen. Donc ça, c'est les travaux d'Antoine Crémer, de Rémi Petit, qui ont connu un grand succès, qui ont été publiés dans les meilleures revues et qui nous ont donné une image de la recolonisation de l'Europe par les arbres pour former les forêts qu'on connaît aujourd'hui. Et puis nous, on a quelques années après, on s'est intéressé donc à la truffe noire du Périgord, Tuber melanosporum, qui est un champignon associé, un champignon symbiotique, qui est associé aux chênes, aux hêtres et à d'autres espèces, mais surtout aux chênes et aux hêtres en France, dans le Périgord, par exemple. Et donc, on s'est posé la question de savoir, mais est-ce que ces truffes sont venues accompagner les chênes au cours de leur recolonisation? Les outils de la génétique moléculaire créent un énorme fichier d'empreintes génétiques, très proche de celui que les services scientifiques de la police utilisent aujourd'hui. On utilise les mêmes outils qu'eux pour typer, génotyper, caractériser un grand nombre de truffes à travers la France, et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement différentes populations de truffes, que la truffe noire du Périgord n'était pas strictement identique à la truffe de Provence ou à la truffe des Pyrénées. Et on a pu comme ça reconstruire la généalogie des truffes, et on s'est aperçu qu'en fait elles avaient suivi le même chemin, elles avaient été réfugiées dans la péninsule ibérique et dans le sud de l'Italie, elles avaient remonté en même temps que les chênes, Elles avaient recolonisé la France par les mêmes voies, le long du sillon rhodanien et par le seuil du Poitou et l'Aquitaine d'aujourd'hui. Et en fait, c'est logique, puisqu'en fait, ces champignons ne peuvent survivre et se disséminer que lorsqu'ils sont associés à leur arbre hôte. Donc, quand un chêne se... On revient à cette image de l'arbre-monde qu'on évoquait tout à l'heure. Quand l'arbre se déplace... C'est un univers qui se déplace. Il est accompagné en permanence, il héberge dans sa migration vers le nord, dans ce cas-là, vers des zones plus favorables à sa croissance. Eh bien, il a transporté des insectes, des lichens, des oiseaux probablement, et des champignons comme la truffe qui lui sont inféodés, qui sont en alliance permanente avec cet arbre magnifique qu'est le chêne.
Je prépare une autre question, mais en fait, je suis obligée de rebondir sur ce que vous dites, sur le fait que chaque arbre transporte avec lui un monde entier. Qu'est-ce que ça devient en plein réchauffement climatique ? C'est une catastrophe.
D'abord, c'est une question qui est compliquée. Les scientifiques ne sont pas des devins. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on essaye... Évidemment, la question qui nous est posée à nous autres chercheurs aujourd'hui et qui anime quasiment toutes les recherches, pas uniquement en France, hein, pas uniquement en Europe, à travers le monde, c'est comment la vie sur Terre va évoluer suite au changement climatique. Alors, on a la chance maintenant d'en parler sur tous les médias. Mais on n'a pas de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie d'abord pour prédire, il faut comprendre. Donc la phase importante qui se déroule depuis plus d'un demi-siècle, là, c'est de comprendre comment les arbres fonctionnent, si on reste sur la forêt, sur les arbres, comment les arbres fonctionnent, comment ce cortège d'organismes que l'arbre héberge fonctionne, comment plusieurs arbres, plusieurs centaines d'arbres forment une forêt, comment la forêt vit, comment la forêt interagit, c'est ce qu'on appelle l'écologie. Donc on a des travaux qui sont menés à l'Institut national de la recherche agronomique, à la fois sur la biologie des arbres, comment les arbres fonctionnent ou dysfonctionnent, et puis quand tous ces arbres sont ensemble avec les autres organismes, comment ils interagissent avec l'environnement, ça c'est l'écologie. Vous imaginez, on a dit le chêne c'est un arbre au monde, il héberge des centaines d'espèces d'insectes, il héberge des dizaines de milliers d'espèces de bactéries et de champignons. On est obligé de rester humble, même avec les outils actuels de la science, qui sont devenus hyper sophistiqués et hyper performants. Il faut des générations, il faut des centaines et des centaines de chercheurs pour comprendre chacun de ces mécanismes, comment la truffe interagit avec le chêne, comment le chêne interagit avec le hêtre, comment le hêtre interagit avec la chanterelle, comment la chanterelle interagit avec les bactéries qui vivent au sein de son chapeau. Et donc, on est au tout début de la définition des règles de fonctionnement de ces organismes complexes, de ces forêts. Malgré tout, il y a une urgence, et le gouvernement, en tout cas les politiques, la société nous dit, mais que faire ? Est-ce que les forêts vont survivre au changement climatique ? Si elles survivent, quel arbre dois-je... Le forestier, il vient nous poser des questions. Le forestier nous dit, aujourd'hui... Que dois-je planter pour récolter dans 150 ans ? Vous avez bien réalisé que le forestier, ce n'est pas un scientifique comme les autres. C'est un chercheur qui doit se projeter dans un avenir incertain à 100, 150 ans. Alors, quand je travaille, quand je plante un arbre, quand j'étudie un arbre, quand je conseille à un forestier de l'Office national des forêts de planter telle ou telle espèce d'arbre ou telle espèce de tel ou tel génotype d'arbre, cet arbre il va être planté pour mes petits-enfants, probablement même pour mes arrière-petits-enfants. Un chêne, il est planté pour être récolté dans 150 ans. Certains chênes de la forêt de Troncet, qui seront utilisés pour reconstruire la forêt de Notre-Dame de Paris, la charpente, ils ont été plantés sous Colbert. Donc, nos recherches essayent de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir comprendre comment ça va dysfonctionner sous l'effet du changement climatique. Alors, mon commentaire, il peut être à la fois optimiste et puis pessimiste. Donc, on va démarrer par les bonnes nouvelles. La forêt française se porte bien. C'est-à-dire que la forêt française, ce n'est pas la forêt d'Amazonie, ce n'est pas la forêt indonésienne. Il n'y a pas de déforestation en France. La superficie de la forêt française, elle a doublé en 25 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 17 millions d'hectares de forêt en relativement bonne santé, je dirais même en bonne santé, en France. Cette superficie, hein, elle était de 7 millions d'hectares au début du XXe siècle. Elle était de 5 ou 6 millions d'hectares à la fin du, au début de l'ère industrielle, à la fin du XIXe siècle. Donc la forêt d'aujourd'hui, elle est considérable. Et elle continue à croître de 100 000 hectares tous les ans. Pourquoi ? À cause du changement climatique. Parce que le changement climatique, le premier facteur du changement climatique, qu'est-ce ? C'est l'augmentation de la teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère, le fameux CO2. Et qu'est-ce que le CO2 ? Qu'est-ce qu'il provoque dans l'atmosphère terrestre ? On dit qu'il provoque l'effet de serre. Et c'est quoi l'effet de serre ? Eh bien, c'est ce que certains d'entre vous probablement vont faire ce printemps. Vous allez mettre vos tomates sous une serre. Pourquoi ? Parce que la teneur en CO2 de la serre, au lieu d'être de 0,3%, c'est la teneur du CO2, du gaz carbonique dans l'atmosphère normale. Alors on est plutôt à 0,45 maintenant. Dans une serre à tomates, ça va monter à 5%. Et le CO2, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Le CO2, c'est le combustible de la vie. Les plantes ont appris à absorber le gaz carbonique et le transformer en sucre. Donc quand vous augmentez la teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère, la plante, elle est ravie. Elle va assimiler et assimiler de plus en plus vite ce gaz carbonique pour former de la matière, du bois dans le cas des arbres. Et donc les forêts aujourd'hui, depuis 30 ans, 40 ans, on le sait, on a découvert il y a 35 ans au Centre de recherche forestière de Nancy, un collègue, Michel Becker, a découvert, surpris, étonné, en regardant les cernes des arbres, que les cernes croissaient de plus en plus vite depuis la révolution industrielle, depuis l'émission par l'homme de gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc les arbres croissent de plus en plus vite. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. L'effet climatique, le changement climatique et l'augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère a provoqué et provoque encore une augmentation, une stimulation de la croissance des arbres, parce que le gaz carbonique sert de combustible à la fabrication des sucres qui servent à la fabrication du bois. Et plus il y a de bois, plus les arbres sont magnifiques. Mais, et c'est là où on commence à être inquiet, c'est que ce système-là marche bien tant que dans le sol, il y a suffisamment d'éléments minéraux et d'eau pour alimenter cette croissance stimulée. Le jour où il va y avoir une rupture, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, en Californie, avec les grands séquoias, qui ont 2500 ans, dont de nombreux sont en train de mourir. Parce qu'en fait, ils poussent, parce qu'il y a de plus en plus de gaz carbonique dans l'atmosphère. Mais par contre, la Californie a subi une série de sécheresses centenaires, c'est-à-dire on n'a jamais connu ça depuis de mémoire humaine, et donc il n'y a plus assez d'eau pour soutenir cette croissance stimulée. Donc là, il y a un déséquilibre, il y a une rupture, et cette rupture, elle peut provoquer la mort. Donc là, les scientifiques sont un peu inquiets, y compris en France. La forêt va continuer à croître, probablement jusqu'à 2050. Et là, en 2050, on va commencer à voir apparaître peut-être l'effet de sécheresse répétée, les maladies vont se multiplier. Les épidémies d'insectes, les épidémies de champignons pathogènes vont se multiplier avec le réchauffement climatique. Donc là, on va peut-être avoir une rupture. Mais il y a différents scénarios. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein de notre communauté de chercheurs forestiers, y compris des chercheurs forestiers nancéens et bordelais, on a plusieurs scénarios. On ne sait pas, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire si la forêt française en 2050 va franchir un seuil de rupture ou si... parmi les populations d'arbres qui sont aujourd'hui dans les forêts, il y a déjà des individus, qu'on appelle des génotypes, adaptés à ces conditions du futur. Donc on est là dans une phase... On a plusieurs modèles qu'on appelle des modèles prédictifs. C'est-à-dire que toutes ces informations sont rentrées dans des machines, des ordinateurs, on a des algorithmes, c'est-à-dire des modèles de prédiction qui sont basés sur les connaissances que l'on a aujourd'hui. Et on peut dire, OK, voilà, si la température n'augmente que de 2 degrés en moyenne sur le territoire national, les forêts d'aujourd'hui ne devraient pas trop changer. La pinette des Landes existera certainement. Les forêts de chênes, de Lorraine ou de troncées survivront parce que dans ces forêts, il y a des arbres qui sont déjà prêts. Et leur patrimoine génétique va leur permettre de s'adapter à ces conditions plus sèches, avec des précipitations plus rares, avec peut-être des tempêtes plus fréquentes, des coups de vent plus féroces. Ces individus-là sont probablement déjà là et c'est eux qui vont être favorisés. Si c'est le cas, le paysage français ne devrait pas trop changer. Si par contre la température augmente de 3, 4 degrés, alors là, malheureusement, on ne sait plus quoi trop vous dire, quoi trop prédire. Ce n'est pas impossible que le sud de la France et le sud et l'Aquitaine ressemblent au Liban ou à la Kabylie d'aujourd'hui, c'est-à-dire on fait monter les températures du pourtour méditerranéen, la forêt nord-africaine, qui est une forêt sèche, la forêt libanaise typique, avec ses cèdres du Liban, etc. Ces espèces d'arbres adaptées à des conditions climatiques très sèches vont probablement franchir la Méditerranée, vont peut-être être plantées par les forestiers, comme c'est le cas autour du Ventoux, hein, il y a des cèdres du Liban qui se comportent de façon exceptionnelle. Et donc ces arbres-là pourraient bien remplacer les forêts qu'on connaît aujourd'hui. Donc on est dans cette phase de recherche où on s'efforce à partir des expériences que l'on réalise aujourd'hui. On étudie particulièrement, on étudie par exemple la forêt libanaise. On a plusieurs projets de recherche actuellement avec nos collègues universitaires libanais pour voir comment les arbres se comportent le long d'un transect, d'un clean qui va de la forêt méditerranéenne jusqu'au sommet des montagnes du Liban pour voir comment les arbres fonctionnent dans ces conditions-là. Et essayer de trouver des espèces, au sein des espèces d'arbres, des individus, des génotypes, des cultivars, des variétés qu'on pourrait ramener dans le sud de la France pour remplacer les arbres qui risqueraient dans 50 ans ou dans 5 ans de disparaître.
Comme je ne voudrais pas que vous soyez triste en fin de conférence, il est important que vous sachiez aussi que le livre de Francis Martin, non seulement qu'il vous apprend énormément de choses, moi j'en ai appris un tas, mais il y a une très très belle écriture. Et c'est important parce que les livres scientifiques, bah souvent, on force est de constater que le style littéraire n'est pas vraiment ce qu'il y a de... Enfin voilà, on ne s'arrête pas. C'est pas le cas ici, et pour que vous en soyez convaincus, je vais juste vous lire le tout début. Comme ça, vous en aurez un aperçu. C'est le premier chapitre qui s'intitule « L'arbre en monde ». C'est une belle journée d'automne dans l'immense forêt de Manial de Bousson, sur le piémont vosgien. Je remonte le sentier sinueux vers la source de la Vézouze, émerveillée par la sombre beauté de cette profonde vallée de sapins, piquetée de leurs flamboyants des hêtres et des bouleaux. Parcourir ce pays sous le soleil matinal d'octobre procure un ravissement de tous les instants. Tous les sens sont en éveil. La lumière douce est filtrée par la ramure des sapins qui dressent leurs flèches vers le ciel lumineux. Les tapis de mousse gorgés de pluie nocturne s'écrasent sous mes pas. Les fougères roussies et les hautes herbes dorées bruissent avec le vent léger. Jonchées d'une confusion de feuilles, de bois morts et de débris végétaux, le sous-bois exhale une forte odeur de décomposition et, surgissant de l'humus épais, laisse échapper des bouffées de spores de leurs chapeaux déroulés. Quels sont les auteurs qui vous inspirent ?
Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, en fait, je suis également photographe naturaliste et je suis randonneur. Donc j'ai essayé de concilier mes trois passions, la recherche forestière, la randonnée, beaucoup de randonnées dans les Alpes ou dans les montagnes du monde, et puis la photographie. Donc chaque chapitre qui effectivement traite soit d'un arbre, soit d'un champignon, emblématique, hein, chaque chapitre, je vous emmène en randonnée. Et j'essaye d'écrire, en écrivant, j'essaye de décrire ce que j'ai vu et ce que j'ai pris en photographie. Parce qu'à chaque fois que je me promène, évidemment, vous imaginez bien, même quand je fais une randonnée dans le Queyras, j'observe les arbres, j'observe les plantes, j'observe les champignons. Et je prends des quantités importantes de photographies. Donc le livre, il est très visuel. Et si vous êtes randonneur, alors là, il faut y aller, parce qu'il y a des promenades extraordinaires. La remontée du cirque de Mafat, un jour de pluie, à l'île de la Réunion, à la recherche d'orchidées, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Parce qu'on est revenu, on était vraiment trempé, mais on a eu la chance de découvrir quelques orchidées extrêmement rares. Et pourquoi s'intéresser aux orchidées? Parce que les orchidées ne peuvent germer, les graines d'orchidées ne germent que si elles sont en association avec certains champignons symbiotiques. Donc ces orchidées ne vivent, ces magnifiques fleurs ne peuvent vivre et apparaître sur Terre que parce qu'elles sont en interaction, en dialogue avec ces champignons. Donc on recherchait un type bien particulier d'orchidées. Et c'était une magnifique randonnée.
Mais ça répond à la question que je ne vous ai pas posée, c'était quelle est la forêt qui vous reste en mémoire?
La plus belle, c'est celle que vous avez présentée. C'est-à-dire que je suis lorrain. Donc en fait, on a la chance en Lorraine, on en parlait tout à l'heure, hein, à une heure de Nancy, à une heure de voiture de Nancy. La Lorraine, c'est la fin du bassin parisien. Donc c'est le plateau calcaire typique. Le plateau lorrain, c'est un plateau calcaire. Mais il vient s'abuter au massif granitique et au grès des Vosges sur une petite zone qui est le massif du Donon, où là on a à la fois les forêts, et avec les forêts, les espèces de champignons qu'on trouve sur les plateaux calcaires, chênes, hêtres, charmes, et puis à quelques mètres parfois, on va avoir un grès rouge des Vosges, plutôt sablonneux, et là on va avoir des épicéas, on va avoir le fameux sapin des Vosges. Et tout ça est entremêlé. Et il y a certaines forêts du massif du Donon où on rentre dans la vallée, et là on regarde à gauche, on a des épicéas, on regarde à droite, on a des chênes, et tout ça s'est mélangé. Et donc les espèces de champignons associées sont mélangées. Et alors pour le ramasseur de champignons, c'est un endroit rêvé. À l'automne 2017, qui a été une année en Lorraine, je ne sais pas en Aquitaine, mais en Lorraine, une année exceptionnelle. On pouvait trouver 300 espèces de champignons différents en une journée de marche en forêt. Et là, j'ai vu apparaître des espèces qu'on rencontre d'habitude que dans le sud de la France. La manite des Césars, par exemple.
Juste. Merci beaucoup d'être venu, merci Monsieur Francis Martin.
Merci.
Et passez une excellente soirée.